La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. On y parle de sujets sérieux, de sujets moins sérieux, de ce qui se passe en Ile-de-France et de débats pas forcément consensuels. Tous les jours, du lundi au jeudi, sur le 93.9.
Aujourd'hui, pour la première fois de ma vie, j'ai utilisé ChatGPT. Pour être honnête, j'avais réussi jusqu'à présent à rester éloignée de l'intelligence artificielle, par manque de curiosité sans doute, par manque de compréhension assurément. Je ne sais pas vous, mais pour moi, l'intelligence artificielle s'est toujours résumée à une technologie aux contours un peu flous, efficace, mais si j'en crois ce qu'on m'en dit, dangereuse, notamment pour les journalistes. Alors cet après-midi, j'ai testé ChatGPT pour vous. Un peu dubitatif, je lui ai soumis des articles en lui demandant de me les résumer, d'en faire un thread Twitter ou même une série Netflix. Et oui, c'est l'avantage de ChatGPT, il n'y a pas de limite à votre imagination. Résultat, assez mitigé. Il y avait des choses utiles et d'autres un peu moins. D'abord, si ChatGPT est un outil performant, il lui reste de nombreuses choses à corriger. Il a du mal, par exemple, à comprendre certains concepts, certaines demandes. Ensuite, et ça c'est ma conviction, l'intelligence artificielle ne remplacera jamais le journaliste. Il remplacera peut-être un type de journalisme, celui qui nécessite aujourd'hui le moins d'expertise et qui s'apparente souvent à du travail à la chaîne. Je pense notamment à ce qu'on appelle communément le bâtonnage de dépêches, c'est-à-dire la reprise de dépêches écrites par l'AFP et ensuite publiées sur les sites des médias. Aujourd'hui, ces tâches sont parfois réalisées par des journalistes. Ça coûte quasiment rien, c'est rapide et ça crée du flux. Peut-être que demain, ChatGPT s'en chargera. Peut-être est-ce une chance, cela contraindrait les rédactions à faire travailler les journalistes sur ce à quoi ils ont été formés, de l'investigation du terrain, du fact-checking. Mais peut-être suis-je naïve, de toute évidence, certaines rédacs risquent de dévoyer ChatGPT en l'utilisant pour réduire toujours un peu plus leurs coûts et donc à terme, on le sait, embaucher moins de journalistes. La seule chose qui est sûre, c'est que vous, le public, les lecteurs, les auditeurs et téléspectateurs avez une responsabilité. L'information, ça coûte de l'argent et si on veut qu'elle soit précise et sourcée, elle a un prix. Vouloir y accéder gratuitement, partout, tout le temps, c'est probablement accepter de voir disparaître peu à peu les journalistes au profit de la désinformation et même du buzz. Alors, il me reste une chose à vous dire, il faut faire le bon choix. Et ce soir, on va continuer à parler journalisme. Ce matin, les résultats des audiences radio sont tombés. 1 million d'auditeurs en moins en l'espace d'un an, mais des radios qui résistent, à l'instar de France Inter. Alors, quel avenir pour ce média et quelle place pour le podcast? On en parlera avec Catherine Fillot, collaboratrice à Radio France, désormais dirigeante d'Elson. Autre invitée dans cette matinale, la directrice artistique du festival Format Court. Elle nous fera le plaisir d'être avec nous en studio pour évoquer la 5e édition de cet événement. Et puis ce soir, vous entendrez également Clément et Gauthier pour leur chronique avec beaucoup d'humour au programme.
La matinale de 19h.
Pardon, ils viennent de tomber, les sacro-saints résultats de Médiamétrie pour la radio ont été révélés ce matin. Information majeure, 1 million d'auditeurs en moins en un an. Et c'est pour comprendre cette tendance, mais aussi les performances des radios plus généralement, qu'on accueille en studio Karine Fillot. Bonjour, ou plutôt bonsoir même.
Ah, c'est la matinale, bonjour.
Oui, alors bonjour, vous avez raison. Comme je disais tout à l'heure, vous êtes une ancienne collaboratrice à Radio France et vous êtes désormais à la tête d'Elson. On va revenir sur ce que c'est. Juste avant, je présente Arnold qui est également avec nous. Salut.
Bonsoir.
Tu vas être là pour faire l'interview de Karine. Est-ce que peut-être on peut revenir, juste avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet, sur ce que c'est Elson?
Alors Elson, c'est une société. Aujourd'hui, on développe plusieurs activités. Une activité de formation, on est un organisme de formation professionnelle au podcast. Donc on a à la fois des particuliers qui viennent se former, des salariés, des auteurs aussi qui viennent du monde du théâtre ou des scénaristes de l'audiovisuel. On a une activité de studio de production. Et puis la raison pour laquelle je suis partie de Radio France, c'est de travailler aussi à des choses plus innovantes autour de la recommandation de podcasts pour essayer de recommander aussi bien les podcasts qui viennent de la radio que les podcasts qu'on appelle natifs, donc qui ne sont pas diffusés sur les radios FM et qui sont faits par des nouveaux créateurs, des studios, mais aussi des amateurs.
Et ça tombe bien puisqu'on va parler podcast, on va parler radio, on va parler des chiffres de Médiamétrie, Arnold.
Mais justement, en parlant des chiffres de Médiamétrie, comme tu viens de le dire, 1 million d'auditeurs en moins, est-ce qu'on devrait s'inquiéter ?
Ça fait déjà un moment qu'on s'inquiète, mais pas plus que ça, en fait. C'est une tendance qui est prévisible parce que la radio change, elle évolue. On parlait du podcast, il y a des nouveaux usages. C'est vrai que pour moi qui ai commencé la radio assez jeune, quand j'avais 16 ans, les chiffres de médiamétrie, c'est toujours un focus important. Hein, donc ce qu'on appelle du coup l'audience médiamétrie, notamment l'audience cumulée. Donc et figurez-vous, tiens, j'ai pas pensé à venir avec, mais il y a quelques semaines, donc en fait, j'ai été sondée sur cette vague-là pour la première fois de ma vie. J'ai eu un appel de médiamétrie et d'ailleurs, j'étais très, très déçue de la manière dont ça se faisait. Mais c'est vrai que les sondages, hein, si les auditeurs qui écoutent la radio, certaines radios le savent, ça vient rythmer la vie d'une radio. Notamment aussi pour les radios publicitaires, les radios de service public, mais aussi les radios privées grâce à la publicité, enfin, qui se financent par la publicité. Et au fil des années, on parlait souvent, il y a encore 10 ans, on parlait de 8 Français sur 10 qui écoutent quotidiennement la radio. Ces dernières années, on parlait plutôt de 7. Et là, en fait, le chiffre que je retiens de l'audience cumulée, c'est qu'on passe de 71,4 à 69,1. Donc on perd un point. Donc ça veut dire qu'on passe en dessous des 70%. Donc aujourd'hui, est-ce qu'on va parler des 6 à 7 Français qui écoutent quotidiennement la radio ? Voilà.
Ben, je vais rebondir sur le terme que tu emploies, audience cumulée. Ouais. Pourrais-tu nous dire en deux mots comment se fait cette étude, au fait, pour que les Français comprennent ?
Alors en fait, il y a des milliers, alors j'ai pas le chiffre exact sur cette vague-là, je crois que c'est autour de 25 000 sur un trimestre. Donc là, on parle de personnes qui ont été interrogées, qui ont été appelées, et on leur demande quelles ont été leur écoute des 24 dernières heures. Donc il se trouve que si on t'interviewe un jour où la veille, t'avais pas ta routine radio habituelle, comme c'était mon cas, j'avais écouté que le soir et pas du tout le matin, ce que je fais habituellement 6 jours sur 7, on va dire. Et donc, il y a une première phase où on va demander donc, aux personnes du panel qui sont pris au hasard. Hein, tu vois, moi, j'ai attendu 17 ans avant de recevoir un coup de fil. On va leur demander d'abord de dire si ils connaissent des radios. Donc on va d'abord, il y a la notoriété qui est testée. Donc on va te donner toutes les radios de la bande FM, en l'occurrence à Paris, là dans mon cas. Et ensuite, on va te demander, du coup, si tu les as écoutées. Et ensuite, on va te demander à quel créneau tu les as écoutées. Et en fait, c'est un créneau au quart d'heure près. Donc il faut se souvenir précisément quand est-ce que tu as allumé, quand est-ce que tu as éteint.
C'est très précis, quoi.
C'est très précis et en fait, c'est du déclaratif. Hein. C'est compliqué parce qu'en plus, là, quand c'est pas ta routine habituelle où tu te réveilles avec ton réveil et tu sais très précisément, parce que parfois, les auditeurs qui sont assidus, ils savent quand je sors du boulot à 19h, je mets la matinale de Radio Campus Paris, par exemple.
Évidemment.
Peut-être le matin, celle de France Inter, et le soir, la matinale de Campus. Mais du coup, c'est parfois compliqué de se souvenir. Mais sur le volume, puisque c'est plus de 200 000, il me semble, interviews, forcément, ça donne une tendance. C'est les statistiques, hein, tout simplement. Et l'audience cumulée, c'est le nombre d'auditeurs qui ont écouté la radio sur une journée.
Et donc là, peut-être avec les chiffres de médiamétrie qui sont tombés ce matin, est-ce qu'il y a des radios qui montent ? Quelles sont finalement les tendances ? Quelles sont les tendances finalement des derniers mois en matière de radio ?
Alors, en fait, déjà dans le classement médiamétrie, les radios sont parce qu'en fait, les gens ne savent pas forcément, mais il existe des catégories de radios. Par exemple, Radio Campus Paris, c'est une radio de catégorie A pour associative. On va avoir les locales, les réseaux nationaux, privés, le service public aussi. Mais il y a aussi en fonction des formats. Et donc le classement, il se fait surtout pour comparer des choses équivalentes. Donc on va classer les radios comme Europe 1, France Bleu, France Inter, RMC, RTL, comme des radios généralistes. Et donc elles sont plutôt la compète entre elles. Mmh. Et ensuite, on va classer les programmes musicaux et les programmes thématiques. Et aussi les programmes locaux, évidemment. Puisque du coup, à chaque fois, c'est fait à l'échelle d'un territoire.
Et donc là, par exemple, peut-être sur les radios nationales, comment... Justement. Est-ce qu'il y a des blocs ? Est-ce que c'est en
Alors,
train de changer ? Comment
ça se passe ? Bien sûr. Il y en a une qui sort du lot depuis longtemps, et c'est France Inter, qui du coup prend pas énormément, prend 0,8 points, passe de 12,6 à 12,8. Mais en fait, ça fait longtemps que France Inter a des très bons sondages, depuis des années. Moi, j'aime bien dire que France Inter n'a plus vraiment de concurrents. Moi, j'ai connu une époque où France Inter avait des concurrents, où Europe 1 constituait une vraie concurrence. Et aujourd'hui, en fait, chacune s'est un peu positionnée. Donc, on a effectivement France Inter qui est en tête avec 12,8, suivi de RTL à 9,6. Et ensuite, donc vous voyez déjà, il y a un écart qui est très significatif. Alors, pendant longtemps, ce n'était pas le cas. Et il y a même 15 ans, France Inter n'était pas la radio en tête. Hein. Et ensuite, on va avoir entre 4,3 et 5,6, on va avoir Europe 1, France Bleu et RMC. Et ça correspond en fait à des stratégies. Par exemple, là, ce qui est intéressant de voir, c'est que Europe 1 a pas mal pris par rapport à il y a un an, puisqu'on va comparer les chiffres par rapport à il y a un an, la vague, on appelle ça les vagues médiamétrie, donc janvier-mars 2023, qu'on compare à janvier-mars 2024, parce qu'il y a une saisonnalité, on n'a pas les mêmes habitudes d'écoute en fonction des moments de l'année, la rentrée scolaire, etc., les vacances d'été aussi. Et donc, on se dit, OK, bon, Europe 1 s'est repositionné, on le sait, depuis le rachat de Bolloré. Il y a aussi des synergies avec les télés du groupe. Donc on se dit, en fait, il y a une orientation, il y a une nouvelle orientation, donc peut-être l'audience, après c'est difficile de dire là, mais elle a changé, elle s'est agrégée. Enfin voilà, ce qu'il y a aussi, c'est les variations, parfois en fait, c'est les variations des grilles, parce qu'il y a des gens sur les antennes. Aussi.
D'une tranche à l'autre aussi, c'est ça qui est intéressant, mais peut-être qu'on y reviendra, je ne sais pas si tu voulais rebondir.
Effectivement, je veux rebondir sur Europe 1, est-ce qu'on pourrait dire par là que c'est la fin de l'hémorragie, au fait, pendant très longtemps
Europe 1,
la fin de l'hémorragie c'est Europe 1, parce que pendant très longtemps, effectivement, on a eu un peu peur.
Ouais.
Est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a une sorte de santé qui s'installe ?
En fait, la radio, ça se mesure sur un temps long. Donc, en fait, c'est difficile de le dire. Parce que parfois, c'est en fonction d'une grille, de l'arrivée d'une personnalité. Parce que certaines radios ont la particularité d'avoir un peu des stars. RTL, par exemple, c'est une radio énormément qui a toujours mis en avant les stars de la télé depuis longtemps, qui a fait aussi ses propres stars. Hein. Voilà, donc des figures très connues des Français. Europe 1 a aussi eu toujours un petit peu cet ADN. Et là, on va dire que c'est des nouvelles figures, un nouveau positionnement éditorial. Donc, est-ce qu'il y a eu un appel d'air et est-ce que ça va se consolider, ça on le saura dans du temps beaucoup plus long.
Et peut-être rebondir aussi sur les autres radios, puisque dans la présentation, vous nous avez parlé des radios dites généralistes qu'on a citées précédemment. Il y a aussi des radios musicales et de manière, alors moi je ne le savais pas, mais qui ont quand même pour un certain nombre des plutôt très bons résultats qui en cumulé sur une journée font plusieurs millions parfois d'auditeurs.
Complètement, oui, non, les radios musicales sont quand même énormément écoutées. Il ne faut pas oublier qu'un des usages quand même de la radio, c'est la radio en mobilité. C'est la radio en voiture et il y a énormément de gens qui écoutent la radio, pas forcément pour du programme parlé, mais pour la radio musicale. Voilà, tout le monde, même s'il y a énormément de gens qui se sont convertis aux plateformes de streaming, je tourne le bouton, j'écoute la radio de mes tubes, Nostalgie a une très bonne performance déjà depuis pas mal d'années, puis là on le voit d'ailleurs, elle est en tête de toutes les musicales avec 6,3, donc on voit bien que...
Donc c'est plus qu'un certain nombre de radios
généralistes. C'est plus que France Bleu, c'est plus que Europe 1, c'est plus que RMC, ouais, bien sûr. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y en a qui effectivement vont avoir un positionnement très fort et vont pas changer tous les 4 matins non plus. Et souvent, c'est la musique, le programme, c'est la musique, la star. Là où sur certaines musicales, mais depuis très longtemps, notamment les musicales jeunes, ce sont aussi les animateurs, les tranches fortes du matin et du soir. Hein. Mais depuis, j'ai envie de dire, depuis les années 90, depuis que je suis ado, hein, je veux dire. Et d'ailleurs, les animateurs que j'écoutais ou que je pouvais écouter à l'époque, les Difool, les Manu Lévy, les Coé, étaient déjà sur ces tranches phares de ces grandes radios-là.
J'allais dire, la matinale, par exemple, de Skyrock se porte plutôt très bien et ça a l'air de marcher. Est-ce que sur les données qu'on a avec Médiamétrie, on a une idée aussi de l'audience, c'est-à-dire, par exemple, l'âge des gens qui écoutent la radio?
Alors, ça, c'est d'autres... C'est pas celle qui est publiée aujourd'hui. Et puis, bon, il faut savoir aussi que, en fait, les radios souscrivent pour avoir ces sondages. Donc, en fait, dans ce que vous avez en ligne, vous n'avez pas tous les détails, vous n'avez pas les quarts d'heure. Voilà, il y a certaines données, mais pas tout. Donc là, je ne pourrais pas vous répondre sur ce point-là. Par contre, ce qu'on voit, c'est effectivement, dans ce sondage-là, on voit déjà qu'il y a une perte très élevée. On passe en audience cumulée de 31,2 à 30,9 pour les généralistes. mais elles étaient pour certaines beaucoup plus hautes il y a 10 ans avant le développement des plateformes de streaming musicaux. Et ce qu'on voit aussi, c'est ce qui est toujours intéressant à regarder, c'est la part de volume d'écoute, c'est-à-dire et la durée aussi d'écoute. Donc on voit là que la durée d'écoute finalement elle baisse pas tant que ça sur les matinales. Donc on voit bien que c'est aussi beaucoup l'usage d'avoir un accompagnement musical. C'est la radio d'accompagnement aussi, la radio musicale. Finalement, ça bouge pas tellement.
Et en parlant de radio musicale, nous aussi, on va vous faire écouter de la musique, puisqu'on fait une petite pause musicale et puis on revient très vite. Avant ça, Ivy de Baby Hayabusa.
Elle m'a laissé descendre, juste une cigarette, tachée de rouge à lèvres. Elle m'a laissé du temps, juste ce qu'il fallait, pour que j'oublie que j'arrête. Toi et moi c'est pas possible comme Annie et Gina. Les ailes dans le dos et les cornes sur le front, je ne sais plus quoi faire. Je me regarde sombrer, je la regarde danser, je bois un dernier verre. Et puis le soleil sort de la pénombre, tout devient plus pénible, presque les traces de tes ongles. Un message texte, une photo dans l'ombre. On a fait comme ça des années, tu ne connaissais même pas mon nom. Donc j'irai jusqu'au bout de la nuit. J'irai jusqu'au bout de la nuit. J'irai jusqu'au bout de la nuit. Ivy, jusqu'à j'en perds ma vie. J'irai jusqu'au bout de la nuit. J'irai jusqu'au bout de la nuit. Au revoir. J'irai jusqu'au bout de la nuit. Ivy, jusqu'à j'en perds ma vie. Quand le ciel pleure, tu n'es plus là pour m'accompagner. Boulevard des pleurs, j'ai ton fantôme en ma compagnie. Big bag de Mika, j'en envoie deux par deux. Affilié aux trois lettres, c'est comme le PPP. Y'a des vassaux et y'a des longues épées. Donc j'irai jusqu'au bout de la nuit pour tout trouver toi. Celle qui me récupère toujours en sale état. Tout en silence, crève-moi les deux yeux, prends mon cœur aussi. Pour tout trouver toi. Celle qui me récupère toujours en sale état. Tout en silence, crève-moi les deux yeux, coupe ma carotide. Crève-moi les deux yeux, coupe ma carotide. Elle a troué mes ailes avec la chevrotine. Y'a plus que l'odeur des cendres, la chambre devient vide. T'es parti en décembre, t'as dit on se revoit vite. Dans le fond d'un flaque, parfois je nous revois vivre. Y'a tellement de choses que j'aurais voulu te dire. Je sais que t'étais capable de me sortir de tout ça. J'ai oublié le goût du dernier boussa. J'irai jusqu'au bout de la nuit. J'irai jusqu'au bout de la nuit. J'irai jusqu'au bout de la nuit. Jusqu'à j'en perds ma vie. Donc j'irai jusqu'au bout de la nuit. J'irai jusqu'au bout de la nuit. J'irai jusqu'au bout de la nuit.
Et vous êtes de retour sur Radio Campus Paris. On discute avec Karine Fillot de la question de la place de la radio, puisqu'on a eu ce matin les résultats de Médiamétrie. On a beaucoup parlé de radio, mais on va aussi parler de podcast. Parce que c'est un usage finalement qui a émergé récemment.
Et qui prend de plus en plus de place, enfin, il faut quand même le préciser.
Voilà, il y a même des radios qui se mettent au podcast dit natif. D'abord, peut-être pour commencer, est-ce qu'on a une idée de la place ou de l'importance qu'a pris le podcast ces dernières années dans les usages ouais. des auditeurs ?
Ça progresse énormément, mais il y a encore beaucoup de chemin à faire. C'est-à-dire que quand on parle d'usage du podcast... Ça veut dire un usage traditionnel, c'est avoir une application de podcast, s'abonner à des émissions, être notifié ou consulter son téléphone et les écouter en mobilité ou autre, hein, pas forcément, à différencier de l'écoute en ligne. L'écoute en ligne, si vous allez sur le site d'une radio, ou vous tombez sur un player et vous écoutez en ligne, mais vous n'êtes pas sur un support mobile qui permet notamment le téléchargement sur votre téléphone, etc. En tout cas, tous ces usages numériques, évidemment, se sont accélérés et on le voit bien. Du coup, ça veut, mais, et donc le fait aussi de produire crée de l'usage, en fait. C'est pour ça qu'il y a eu un moment un peu clé en 2017-2018 où les premiers studios de podcasts natifs ont émergé. Que ce soit Nouvelles Écoutes avec le podcast La Poudre, que ce soit Binge Audio, que ce soit ensuite Bababam, etc. Et du coup, cette offre aussi et ces contenus un peu nouveaux qui souvent sont adressés par thématiques bien ciblées, parfois des thématiques de niche, sur des thèmes qu'on peut trouver à la radio, mais pas forcément en podcast dédié. Et ben, tout ça, évidemment, ça a contribué à faire découvrir le podcast à un certain public. Et la radio, ben, en fait, elle s'y est mise en 2005-2006, quand Apple a commencé finalement à ouvrir la plateforme iTunes à l'agrégation de podcasts. Moi, je me souviens de cette époque-là où un jour, notre boss arrive dans le bureau et nous dit le PDG, à l'époque Jean-Paul Cluzel, a décidé que dans 3 mois, tout Radio France serait en podcast. Alors, c'était du podcast de replay. Évidemment, c'est du podcast de réécoute, mais ça a commencé aussi à créer un usage, une offre aussi pour les auditeurs, une offre de service. Et on a tout de suite vu, d'ailleurs, une des radios qui a bénéficié énormément de cette radio de rattrapage, c'est France Culture. Et d'ailleurs, ça a aussi dopé, ça a permis de faire découvrir France Culture, au-delà du fait que la radio aussi, elle a eu quand même une mutation dans ses programmes, dans son ton aussi pendant 15 ans. Mais le fait de pouvoir adresser des émissions qu'on n'écouterait pas à 14h ou à 16h ou à 9h, etc., sur des thématiques de contenu vraiment à valeur patrimoniale. Voilà, et donc ça a aussi dopé l'audience. En fait, on voit que France Culture grabille de l'audience depuis déjà des années. C'est une progression constante.
Donc il n'y a pas de logique de concurrence, en fait, ou de compétition entre le podcast qui est plutôt numérique, natif, et la radio traditionnelle, comme on l'a pensé au départ.
Ah non, s'il te plaît, non. Tu ne peux pas t'imaginer le nombre de fois dans des couloirs Radio France où j'ai essayer d'expliquer à des producteurs, à des animateurs quand je travaillais au numérique que non, c'est pas parce qu'un auditeur allait t'écouter en podcast qu'il t'écouterait pas, et de toute manière il t'écoute, et c'est pas parce que tu vas être dans un podcast, enfin c'est différent et c'est complémentaire, en fait.
Et justement, est-ce que le succès du podcast c'est dû aussi au format, puisque par exemple on parle de France Culture, là il y a une alors c'est pas forcément pour faire la promotion, mais
ce que je voulais dire c'est que France Culture est nativement une radio de podcast. C'est pas une radio qu'il est facile d'écouter en FM, en fait. Donc pour elle, c'est complètement naturel d'être une radio podcast, et c'est aussi pour ça que son offre de podcast, voilà.
Mais on reproche beaucoup à l'information, notamment en continu, si je pense à France Info par exemple, de faire beaucoup, d'aller très vite. Or, on a l'impression aussi, et peut-être que c'est ça qui séduit les auditeurs, que le podcast prend le temps. Je pense au podcast de France Culture qui est sorti là sur Louis Ferdinand Céline, c'est 10 épisodes d'une heure, faut quand même avoir le temps.
Et aussi les moyens de le produire.
Exactement, aussi.
Mais en fait, il faut comprendre quelque chose, c'est que la radio, elle a des fonctions. Et la radio d'information continue, elle a une fonction, c'est d'informer. En fait, et en réalité, aujourd'hui, sa concurrente, c'est la télé. La concurrente de France Info, aujourd'hui, c'est les télés d'information continue. Et est-ce que les podcasts de France Info explosent ? Eh bien non, parce qu'on est sur du format court, on est sur du format qui n'est pas durable. L'actu, par définition, c'est jetable. Or, le chemin, déjà, pour arriver à l'usage du podcast est compliqué. Donc, quelque chose, un contenu qu'il faut produire quotidiennement et qui serait finalement un peu éphémère, c'est compliqué. Alors, l'usage ne s'est pas développé sur le podcast d'actualité, encore que, depuis quelques années, c'est moins le cas. Mais qui le porte ? Eh ben, c'est Le Parisien avec Code Source, c'est Binge
la Audio
avec Programme B aussi. Alors la télé,
BFM avait lancé, par exemple, je pense au moment de l'élection présidentielle de 2022, ça s'appelait Service Politique. C'était toutes les semaines un podcast sur l'actualité liée à la politique dans un cadre de campagne présidentielle. Est-ce que c'est de cette offre-là dont on parle ?
Alors, disons que c'est différent, c'est-à-dire que le gros avantage des télés et des grandes radios, c'est qu'elles ont déjà une audience. Donc en fait, elles peuvent adresser facilement. Le problème des nouveaux venus, des studios notamment, bah, c'est qu'ils n'ont pas cette audience que leur permet le hertzien, en fait. Donc eux, ils ont une approche différente. Les programmes, alors le Parisien, c'est aussi de la diversification, c'est aussi toucher des nouveaux publics, mais c'est aussi engager leurs propres lecteurs sur un autre format. Voilà, ça peut être aussi des sources de rémunération. Quand pour d'autres, c'est essayer de tester eh bien, une offre, de créer une communauté autour de ça. Et souvent, c'est pas de l'actu très chaude, c'est plutôt du magazine, en fait. Mmh.
Et moi, j'avais une question plus sur le modèle économique des podcasts. c'est une question, il y a énormément aujourd'hui de podcasts, même individuellement, nos auditeurs, il y en a peut-être qui ont créé leur propre podcast, qui l'ont mis sur Deezer, Spotify, etc. Comment se porte le podcast d'un point de vue plus économique ? Est-ce que ça reste...
Ça dépend de quel podcast on parle. Mais on pourrait dire exactement la même chose de vidéos sur YouTube, en fait.
Moi, je voulais parler des podcasts notamment natifs. On a parlé tout à l'heure de Binge Audio. Comment ça se passe pour eux ? Est-ce qu'après avoir émergé, ils se stabilisent ? Est-ce qu'ils ont un avenir ? Est-ce que... enfin, voilà.
C'est difficile
beaucoup de questions, j'avoue.
Non, mais surtout, il faudrait poser la question à Lorenzo et Joël. Mais c'est difficile de dire. Mais pour bien comprendre en fait, les mécanismes, c'est que ces studios créent des podcasts et deviennent des médias. Et donc, il y a un enjeu d'alimenter. Donc, il y a un enjeu de produire. Parce que l'audience est de créer une communauté d'audience. Et c'est un des problèmes qui se pose aujourd'hui à l'écosystème du podcast natif. C'est que c'est un média, le podcast, qui n'est pas financé. Il y a des aides à la presse, il y a des aides à la production audiovisuelle, mais il n'y en a pas pour le podcast. Donc c'est pour ça que depuis quelques années, ces différents acteurs, dont le PIA, dont Binge et Paradiso font partie, donc c'est un syndicat de producteurs indépendants, travaillent, saisissent aussi les politiques, le ministère de la Culture aussi pour que il y ait un cadre pour ça, parce que sinon ils sont obligés de financer. Alors évidemment, donc du coup ça veut dire qu'ils travaillent sur des monétisations classiques, de la publicité, parfois du sponsoring sur leur podcast, de la diversification aussi, c'est-à-dire je passe d'un podcast à un livre, voire à un spectacle, voire à d'autres choses. Et d'ailleurs il y a une tendance aujourd'hui qui est de dire finalement les acteurs du podcast natif, certains studios, est-ce qu'on se dirige finalement vers être des médias, le flux, comme n'importe quelle radio, ou est-ce qu'on crée des choses de plus en plus patrimoniales et qu'on va essayer de diversifier vers l'audiovisuel ? Donc aujourd'hui, on a différentes stratégies dans les studios et certains sont là pour gérer de l'API, ce qu'on appelle de l'API, c'est-à-dire la propriété intellectuelle, et de voir cette valeur qui est mise dans des séries documentaires ou dans des magazines, sur des thématiques précises, comment les valoriser demain dans la production audiovisuelle, dans de la fiction, des choses comme ça.
Mais justement, par rapport à cette idée de monétisation des podcasts, est-ce que la diversité, disons, le côté pléthorique de l'offre, si je pourrais dire cela, n'est pas un frein au fait à la monétisation.
Alors, elle est un frein. Elle n'est pas qu'un frein à la monétisation. Elle est un frein tout court, parce que pour moi, un des enjeux aujourd'hui, c'est comment trier les podcasts. Ouais. Voilà.
Il y en a tellement.
Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, on parle de l'audience, en croissance, mais en fait, l'explosion est différenciée un peu, parce que en fait, quand on parle de podcast, il y a des podcasts. Qui sont tels qu'on pourrait les produire à la radio ou qui sont éditorialisés. Et en fait, aujourd'hui, n'importe qui peut faire son podcast. Donc ça veut dire que tu peux faire un podcast sur le marketing, tu peux faire un podcast de formation, ça reste un podcast sur les plateformes, puisqu'on est dans un écosystème ouvert de RSS et sur lequel d'agrégation, c'est-à-dire que tous les podcasts sont sur toutes les plateformes, il n'y a pas de droit d'entrée à être présent sur les plateformes de podcast, et les plateformes de podcast ont très peu investi dans de l'innovation pour essayer de trier les podcasts. Donc en fait, aujourd'hui, t'as beau faire même de plus en plus un super podcast, si t'as pas des leviers pour le faire connaître et pour trouver, c'est très compliqué. Donc en fait, on décorrèle complètement la valeur du contenu. Donc aujourd'hui, c'est la jungle, et donc comment rendre visible ça, pour moi, c'est un des enjeux. Et donc ça veut dire que la monétisation aujourd'hui, elle peut se faire dès lors que, en fait, comme pour beaucoup de médias, c'est-à-dire dès lors que tu captes de l'audience. L'audience, on sait comment la monétiser. Voilà, c'est pour ça que la diversification, parce que t'as un moyen de monétiser sans audience. Alors, le sponsoring, tu trouves un sponsor qui veut s'associer à toi, t'as pas besoin d'avoir une grosse audience pour ça. Le revenu indirect, c'est beaucoup de podcasteurs. Moi, donc, je forme pas mal de podcasteurs que j'accompagne vers une professionnalisation. Bah, beaucoup, c'est du revenu indirect. Je parle d'un podcast sur un sujet, on vient me chercher pour mon expertise, etc. Donc, il peut y avoir, à titre individuel, des choses comme ça. Mais on a besoin qu'il y ait une structuration plus importante, qu'il y a des enjeux d'innovation, il y a des enjeux de régulation, parce que au final, aujourd'hui, les agrégateurs de podcasts, donc les plateformes sur lesquelles on écoute de podcasts, Deezer, Spotify, Apple, ne paient aucun droit d'auteur.
Et peut-être juste dernière question très rapidement, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps sur le podcast et peut-être sur l'avenir du podcast. Un truc qui se développe pas mal, c'est la vidéo, de manière assez surprenante. Par exemple, quand on écoute des podcasts sur Spotify, on peut voir la vidéo. Est-ce que c'est outil de diversification ?
C'est surtout ça, alors la vidéo liée à l'audio, ça a été surtout un support pour les radios pour avoir des nouveaux publics. Quand les caméras sont arrivées à France Inter, qu'on a commencé à faire des vidéos sur les humoristes, il y avait des jeunes de 20 ans qui écoutaient Pierre-Emmanuel Barré, Nicole Ferroni, qui ne savaient pas que c'était la radio et que c'était France Inter. Donc c'est un levier qui a déjà existé pas mal sur de la vidéo classique sur les réseaux sociaux, on va dire plus anciens, Facebook, etc. Aujourd'hui, on est effectivement dans des réseaux comme Instagram, énormément qui utilisent beaucoup. Enfin voilà, donc ça marche, montrer, parce que c'est difficile, c'est du son, la radio. Et alors après, est-ce que ça convertit ? C'est une autre question.
Eh bien, on vous réinvitera pour avoir la réponse à cette question. Merci Karine Fillot d'être venue ici à Radio Campus Paris pour nous parler des audiences, donc de la radio et de l'avenir du podcast. On le rappelle, vous êtes une ancienne collaboratrice à Radio France et vous êtes désormais à la tête d'Elson. Désormais, on va nous basculer vers une petite pause musicale avec la très belle chanson My Song de Libby Cipher.
This is my song and no one can take it away. It's been so long, but now you're here, here to stay. And I wonder if you know what it means to find your dreams come true. Song, and no one can make it alive. It's been so long since someone could make me cry. And I wonder if you know what it means to laugh as tears go by. I may not always sing in tune, and sometimes you don't hear me, but you don't have to be near me to know that I'm singing. This is my song, and nothing can make it die. It's been so long, and it's stronger. I know why, and I wonder if you really, really know that as long always sing in tune, and sometimes you don't hear me, but you don't have to be near me
I'm singing. This is my song, and nothing can make it die. It's been so long, and it's stronger. I know why, and I wonder if you really, really know that as long as I live, I will sing my song. That as long as I live, I will sing.
Eh bien, c'était la très belle chanson My Song de Labi Cypher.
La matinale de 19h, du lundi au jeudi, sur Radio Campus Paris.
Et on est avec Clément qui nous a rejoint au studio. Salut Clément. Pour ta chronique aujourd'hui, tu vas nous faire une petite chronique humoristique.
C'est ça, bonjour tout le monde. Salut. Comment ça va?
Ben, ça va bien.
Ça va bien? Bah écoutez, moi ça va aussi, mais la semaine dernière, je suis tombé malade. Alors ouais, je vais vous dire direct, hein, j'ai pas pris beaucoup de risques pour cette chronique, hein, j'ai pris un sujet tombé malade. Un sujet néanmoins universel qui unit tout le monde. Quand c'est vrai, quand c'est une excuse, quand c'est vrai, pardon, c'est une excuse valable pour manquer le travail. Enfin, quoique, c'est pas suffisant pour certains patrons qui, en dépit des réglementations, poussent leurs employés à la culpabilité pour venir travailler. Oh là, je commence à prendre un peu de risque là, faudrait pas que vous pensiez que je sois de gauche. Qui plus est, sur une radio étudiante qui fait sa matinale à 19h, clairement une radio droite, RCP. En tout cas, que ton patron soit sympa ou non, quand on a le nez qui coule, on risque de manquer des opportunités. Comme par exemple une sortie au bar avec des gens que tu souhaites rencontrer. Et ça, bah, c'est frustrant. Alors aujourd'hui, en tant qu'expert sur ce sujet, je viens vous donner des conseils pour gérer cette émotion. Alors écoutez bien. Sachez que si vous êtes ingénieur, vous allez avoir un avantage. Parce que la première chose qu'on va faire, c'est construire un barrage à émotions. Une digue bien solide. Le but, c'est de ne rien laisser passer et d'accumuler la frustration dans un réservoir. Ça va vous permettre de créer un écosystème autosuffisant où fleurissent de nombreuses espèces aquatiques. Florale et animale, comme par exemple la dorado sceptique ou encore le colin puissant. Cet écosystème peut s'installer durablement dans l'organisme, mais cela n'est pas forcément négatif. Il peut permettre à son propriétaire d'élargir son vocabulaire. Les phrases les plus courantes à ce stade de développement sont « Ouais, ouais, ça va, t'inquiète. »« Non, non, mais franchement, ça va, ça va. » Ou encore « Je dis que ça allait, pourquoi t'insistes? Tu veux que j'inclue ta daronne dans nos discussions? Incroyable. Incroyable. » Avec suffisamment d'entretien, le vocabulaire peut évoluer en onomatopée, la plus classique étant le « ah », bien connu de tous, sachant évidemment qu'il faut le crier. En général, effectué à l'abri des regards, je vais me permettre de vous faire une démonstration. On inspire, on expire. On pense à tous nos poissons, le colin puissant, la perche, que ton crush t'attendu que t'as pas réussi à saisir, la dorade. Et on referme son écosystème. Voilà. La semaine prochaine, je vous parlerai de la flemme. Peut-être la semaine d'après, genre. Je vous redis, mais... Enfin, on verra. Allez, je vous laisse, je vais aller nourrir mes poissons.
Eh bien, merci Clément pour cette chronique assez imagée. Et on repensera à, évidemment, la dorade. Eh bien, tout de suite, le Zoom.
La matinale de 19h. Du lundi au jeudi, sur Radio Campus Paris.
Et il est 19h39, vous êtes bien sûr Radio Campus Paris. À présent, on accueille dans le studio Katia Bayer. Bayer, je ne sais pas comment on le prononce alors.
Bah, vu la chronique qui vient de se passer, je crois que c'est Bayer. Même si je pensais que tu allais parler de la flemme, mais voilà, c'est Bayer.
Alors Katia Bayer, vous êtes la directrice artistique du festival Format Court, qui est un festival qui s'ouvre le 25 avril prochain. On va donc en discuter ensemble, ou plutôt avec Arnold, qui est toujours là. Encore. Et qui va vous poser plein de questions sur ce festival.
Eh bien, c'est bien le cas. Alors, 2h56 pour Batman, 3h09 pour Babylon, 3h12 pour Avatar, 3h pour Oppenheimer. Il paraît que la tendance est au film long, et parfois soporifique, on me dit à l'oreille. Alors, aujourd'hui, on va revenir aux origines du cinéma, à la genèse du cinéma, du moins sur le plan de la durée. Tiffen, devine quelle était la durée du premier film jamais tourné ?
Moi, je dirais 3-4 minutes.
Ah ben c'était encore moins, c'était 45 secondes pour le premier film tourné par les frères Lumière, les inventeurs du cinéma. Et justement, il s'agissait d'un court-métrage, le premier du genre. Et bien oui, le court-métrage est vraiment la base à l'origine du cinéma. Or, paradoxalement, ce format est tout simplement absent des salles de ciné. On ne voit jamais de court-métrage quand on va chez Pathé ou UGC ou un troisième pour
MK2.
Voilà. C'est un peu pour réparer cette injustice qui a été créée, j'imagine, le festival Format Court, un festival qui est installé déjà dans le paysage parisien depuis 5 ans. Festival créé par le magazine éponyme et qui aura lieu, comme je l'ai dit au départ, à partir du 25 jusqu'au 26 avril à Paris.
Jusqu'au 28. On n'arrive pas encore à faire un festival de 2 jours.
25 au 28 avril, effectivement. Pour en parler, nous recevons, comme on l'a dit, Katia Baillet. Katia Baillet, directrice artistique du festival Format Court. Katia, bonjour.
Bonjour.
Alors, Format Court,
900... Enfin, bonsoir. Enfin, je ne sais plus, en fait.
Bah, on est... Alors,
il est quelle heure?
C'est le soir, mais c'est aussi la matinale de Radio Campus. Non, donc c'est à...
Ok.
Chacun choisit un petit peu comme il veut. Bonsoir, bonjour.
On est ouvert d'esprit ici, donc on regarde des films.
Moi aussi, ça tombe bien.
Parfait. <Okay. rire> Donc, le festival Format Court, c'est 900 films envoyés pour la compétition, 19 sélectionnés, 3 jurys, professionnels, presse, étudiants. C'est un festival qui marche, qui est soutenu cette année, comme l'année dernière, par la ville de Paris.
Ouais.
En deux mots, présentez-nous le festival Format Court, Katia.
Alors, ce que je peux compléter, juste un petit truc peut-être par rapport à ce que vous disiez au début, le festival s'est créé en réaction à l'absence de courts-métrages dans les salles. Ce n'est pas totalement vrai. Il y a des courts-métrages qui sont montrés dans les salles de cinéma. Après, c'est rare. Il y a par exemple les Nuits en or du court-métrage, qui est un projet qui a été mis en place par les différentes académies du cinéma dans le monde entier, où on peut voir une fois par an des courts-métrages primés au César, au Goya, aux Oscars, etc. Et parfois, il y a aussi des sorties de moyens-métrages en salle. Je pense à un film qui s'appelle Les Mauvais Garçons, pardon. Un film qui avait eu le César du meilleur court-métrage, parce qu'il y a quand même des Césars pour le court. C'est un film dans lequel il y avait Raphaël Quénard. Et c'est, voilà, donc on peut voir quand même encore des courts en salle, dans des moments où d'autres gens vont peut-être voir des longs-métrages. On peut voir par exemple 2 courts-métrages à la suite. Et souvent, c'est vrai qu'il y a des équipes qui sont là pour accompagner les films. Maintenant, clairement, on a un souci, c'est que même si le cinéma commence avec le court-métrage, en fait, les gens, à un moment donné, sont passés au long. Et ces films ont du mal à être vus. Alors, il y a des cases, à la télé, sur Arte, par exemple, un très très bon programme qui s'appelle Court Circuit. Vous pouvez voir effectivement les films tard le soir ou en replay sur le site. Ça vous donne des occasions, effectivement, de voir des films du monde entier. Après, le principe d'un festival, je pense que c'est un peu comme, un peu comme ici. Enfin, l'idée, c'est de se rencontrer, en fait. Donc, nous, on diffuse des films, mais on a énormément d'équipes qui viennent les présenter. Alors, ça concerne les réalisateurs, mais aussi les comédiens, les producteurs. On a mis en place un festival à taille humaine. Ça, je pense que c'est important. On a 3 jurys, pareil. Je pense que c'est pertinent d'avoir autant des professionnels que des étudiants ou que des journalistes qui viennent effectivement apporter leur regard. Alors, il y a des gens qui ont un peu plus l'habitude de voir des courts, mais pour d'autres, c'est vraiment, j'ai envie de dire, la première fois. En tout cas, on a l'idée de... Voilà, nous, on va éditorialiser, un peu comme ce qu'on fait avec le magazine. Donc, on va faire une sélection de films. Et puis après, c'est au juré de regarder effectivement ces films. Et puis, on a aussi un vote du public. Donc, les gens peuvent se balader de film en film, de séance en séance, et puis voir ce qui les intéresse.
Justement, par rapport à ce côté éditorial, cette année, est-ce qu'il y a un focus particulier qui sert de thématique ou qui a anglé votre point de vue dans la création du festival ?
Pas vraiment, parce qu'en fait, les films arrivent d'un peu partout. Donc, cette année, effectivement, on en a reçu quasiment le double des années précédentes. Ça veut dire qu'effectivement, il y a... Je pense qu'il y a un engouement. On est aussi passé par une plateforme qui est un peu plus réputée dans le milieu du court-métrage. Donc, les gens ont tendance à inscrire les films via cette plateforme qui s'appelle Filmfest. Et donc, on a reçu des choses très différentes. Après, on a effectivement beaucoup de films de jeunes auteurs. qui vous parle de la société, qui vous parle de l'amour, qui vous parle de la maltraitance. Enfin, c'est hyper varié. En fait, ce sont des regards sur le monde. Et il n'y a pas vraiment de thématique. Après, nous, on est un comité. On a des gens qui sont plus jeunes, qui vont avoir envie de défendre un certain type de cinéma. On accepte les autoproductions aussi. Donc, on va se retrouver avec une sélection, avec des films qui ont peut-être été à la semaine de la critique à Cannes et d'autres qui commencent en fait avec nous. Donc c'est vraiment très, très diversifié. Et puis, par contre, ce qui, moi, me semble important, c'est qu'on a un volet compétitif, mais on a aussi des séances thématiques.
Effectivement, on va venir à cela tout à l'heure.
Oui, il faut bien que je vous laisse des questions, hein, sinon ça ne marche pas.
Hein. En parlant justement de cet élément critique, moi je me demandais, en voyant qu'il y avait trois jurys, de savoir effectivement pourquoi le choix avait été fait de faire ces trois jurys. Donc il y a un jury professionnel, un jury presse et un jury étudiant. Le jury professionnel est fait par des personnes très installées dans la profession, comme j'ai pu le voir. Et pourrais-tu nous en dire plus un peu ceci en deux mots? Qu'est-ce qu'il y a de... Pourquoi avoir fait trois jurys, tout simplement?
Alors, souvent dans les festivals de courts-métrages, il n'y a pas de jury presse. Et ça, je pense que c'est un problème parce que, en tant que critique, je pense qu'on doit identifier les auteurs à la source. Et souvent, on se rend compte que, il y a des nouveaux noms quand on voit des premiers longs-métrages, mais en fait, les gens souvent viennent du court. Et nous, en fait, on fait partie des gens qui identifient ces gens dès le départ. Alors, je ne dis pas qu'on identifie tout le monde, vraiment pas, on n'aurait pas cette prétention-là, mais c'est vrai qu'on a vu passer beaucoup de gens du genre Emmanuel Marc, Xavier Legrand, Oda Benyamina, Lisa Coca. Enfin, ce sont des gens qui ont fait des premiers longs, qui ont pu effectivement se retrouver en salle, que vous avez peut-être vu parce que il y a eu de la presse, parce qu'il y a eu des avant-premières, parce qu'il y a eu des festivals, parce qu'il y a eu du bouche à oreille. Mais ce sont des gens qui commencent quelque part. Donc pour nous, c'est important aussi d'avoir ces regards de professionnels, parce que quand il y a une sélection, je pense que c'est bien aussi qu'il y ait des enjeux. Donc, il y a différents prix. Ces gens vont remettre le prix du scénario, comme le grand prix, comme le prix de l'image. Et donc, on essaye de s'entourer de gens qui ont une expertise. Donc, par exemple, on a dans ce jury cette année Tom Harari, qui est chef op, qui a travaillé sur des films comme Onoda, il a travaillé sur un film qui vient d'être pris à la semaine de la critique. Et c'est quelqu'un qui a commencé par le court-métrage. On a aussi une jeune comédienne, Céleste Brinquel, qu'on connaît par son jeu dans Thérapie ou dans Fifi, qui est aussi un premier long, mais qui, je pense, a une sensibilité, un intérêt pour les gens qui commencent par le court-métrage. Et donc, je crois que c'est pertinent d'avoir des regards croisés et à la fois, effectivement, des critiques et des étudiants aussi, parce que chacun, avec sa personnalité, va apporter quelque chose de différent à ce festival. Et chaque festival est différent parce que chaque jury est différent.
À la suite de cela, est-ce que vous direz que le court-métrage aujourd'hui est une sorte de plateforme de lancement pour ces cinéastes en herbe vers le long métrage, ou ce sont deux publics, deux marchés différents totalement?
Je crois que le cours est un très chouette laboratoire. Il y a plein de choses possibles. Que les gens continuent dans le long, ou en tout cas continuent dans le cinéma, ça c'est vraiment personnel. Maintenant, nous on est une plateforme. On leur permet de se faire repérer et voilà, mais vous viendrez, vous nous direz.
Je viendrai, effectivement. Alors, je ne pourrais pas finir cette interview sans parler du soutien de la ville de Paris que vous recevez, effectivement, par rapport à ce festival.
Ouais.
J'ai vu qu'il y avait une carte blanche dédiée à la ville de Paris. En quoi est-ce que ça se particularise?
Alors, ce n'est pas le seul soutien, mais effectivement, pour un jeune festival, c'est important de trouver des partenaires. Et je pense que, la première année, on prenait un peu tout le monde. On prenait autant un espace de coworking qu'une structure qui pouvait soutenir le prix du scénario. À un moment donné, on gagne un petit peu en expertise et on a envie de s'entourer de chouettes partenaires. La ville de Paris, ça s'est fait un petit peu par hasard. L'an passé, effectivement, on avait tenté quelque chose qui a vraiment très bien marché. C'était une séance autour des réalisatrices. Donc, on accueillait je crois que c'était 5 réalisatrices, je ne me souviens plus. Mais effectivement, on avait Brigitte Sy. La mère de Louis Garrel, qui a commencé en fait avec le cours, et elle avait fait il y a très longtemps un cours que j'avais vu qui s'appelle L'endroit idéal. Et en fait, parfois vous avez des souvenirs en fait de films, et le fait de pouvoir les montrer en salle, c'est quand même juste génial. Et donc cette année, on refait effectivement une séance, alors qui va tourner plus autour de la famille. Et on accueille 5 équipes qui seront là. C'est une séance qui est quasi complète. Et on a Jeannerie, je ne sais pas si vous l'identifiez, mais qui a commencé par le court-métrage, en fait.
Dans des séances qui vont se passer, peut-être on va devoir conclure malheureusement, pas faute de temps, qui vont se passer non seulement des séances de cinéma, mais aussi des séances de partage et dédiées aux professionnels, comme j'ai pu le voir sur votre programme.
Mais pas seulement, ça, je pense que c'est vraiment important. Ce n'est pas un festival qui ne concerne que les professionnels. Tout cinéphile, toute personne qui a envie de voir des films, qui ne sait pas forcément, en fait... ce qui va se passer lors de la séance, parce qu'on va vous proposer des choses super différentes. On va vous proposer de l'animation, de la fiction, du doc, de l'autoproduction. En fait, après, c'est un peu à vous de sentir en fait, comment vous allez sortir de la séance.
Et... Donc, rendez-vous du 25 au 28 avril, dans le 5e, au studio des Ursulines. C'est bien cela.
C'est ça.
Et peut-être pour les auditeurs ou auditrices qui sont intéressés, comment faire pour tout simplement prendre des places? Est-ce qu'il en reste
Oui.
Oui,
il reste des places. En fait, tout simplement, vous allez sur le site Formacourt. On est également sur les réseaux. On ouvre aussi avec Florence Loricaille. On n'en avait pas parlé.
Chaque
année, on essaie effectivement d'avoir un parrain ou une marraine. L'an passé, c'était Bastien Bouillon. Voilà, on voit aussi des acteurs en fait qui évoluent à travers le court-métrage. Donc, c'est très chouette aussi de pouvoir montrer différents films de leur filmographie. Vraiment, on a très envie de toucher un jeune public. Parce qu'en fait finalement les gens qui vont être en face ne seront pas forcément beaucoup plus âgés qu'eux.
Eh bien merci en tout cas de vous être déplacée et d'être venue jusqu'à Radio Campus Paris. Katia Bayard, on le rappelle, vous êtes la directrice artistique du festival Formacourt qui aura lieu du 25 au 28 avril et non le 26, donc c'est 4 jours. C'est 4 jours de cinéma. Tout de suite, petite pause musicale, cette fois-ci c'est la dernière, avec Ève d'Avenoir.
You've been alone. You don't like being on your own. No, you don't have to look too far. And girl, you know the reason. And darling, I know you want this. It's been a long time since I was on it. And I don't care where you've been since.
C'était Ève d'Avenoir. Désormais, on va passer à la dernière chronique.
La matinale de 19h.
Et un peu de pression pour toi, Gauthier, parce que je crois qu'on n'a jamais été aussi nombreux dans ce studio. Je vais présenter ta chronique, excuse-moi. Pardon. Tu vas nous faire également une chronique humoristique. Donc là, il y a un peu un battle qui joue avec Clément, donc on t'écoute.
Bonsoir. Salut. Cette semaine, c'est ma 40e chronique sur ces ondes et ça y est, après 24 mois d'avril vécu, j'ai enfin compris la recommandation « En avril, ne te découvre pas d'un fil ». Parce que les mois d'avril, en fait, c'est un fripon. Il te fait miroiter de la chaleur, des températures agréables pour que tu commences à prendre la confiance, à sortir en t-shirt et puis sans prévenir, bam, il fait froid à nouveau et tu tombes malade. Perso, je le vis comme un couteau dans le dos. Moi, je pensais qu'on était potes. Avril, il fait des pranks, c'est le Greg Guillotin des mois. Mais avril, c'est un mois important aussi parce que, est-ce que vous avez pensé à remplir votre déclaration d'impôt? Oui.
Non.
Non. Voilà, encore. ça c'est pas une blague, c'est juste un petit conseil pour pas que vous fassiez rattraper par la loi. C'est simple, hein. Tout ce que j'ai fait, c'est que je suis allé sur le site des impôts. Ils m'ont dit l'année dernière vous avez gagné tant. Bon, s'ils veulent, moi je les crois sur parole, hein, parce que bon, j'ai pas que ça à foutre de calculer mon salaire annuel et de parler en cas d'euros. Je gagne pas assez d'argent encore pour arrêter d'être de gauche. Ceci dit, grosse nouveauté cette année, parce que pour la première fois de ma vie, je deviens imposable aux impôts. Voilà, on croit que ça arrive qu'aux autres, et au final... Bon, alors, je vais expliquer ce que ça veut dire pour les pauvres qui m'écoutent. Être imposable, ça veut juste dire que ça y est, j'ai gagné suffisamment d'argent pour payer des impôts. En vrai, je pensais pas y arriver après seulement un an de chronique sur Radio Campus Paris. Parce que les cachets qu'on m'offre pour ma présence ici sont pas vraiment fameux. Hein.
Toi, t'as des cachets ?
C'est même pas au tarif syndical du bénévolat. Ça, faudra que j'en parle aux responsables syndicaux ou aux coordinatrices de la matinale. Je quitte donc le club des non-imposables que j'ai fréquenté pendant presque 25 ans pour dire bonjour à la richesse, bonjour au caviar et adieu à une partie de mon salaire durement gagné tous les mois. Mais je dis surtout bonjour aux associations caritatives. Et oui, parce que maintenant que quand je vais faire un don, il va être déductible d'impôts, mais donnez-moi toutes les causes, que je signe toutes vos pétitions, que je vous donne tout mon argent. Carrément, depuis que j'ai appris que j'allais payer les impôts, c'est moi qui arrête les recruteurs de donateurs dans la rue. Et c'est eux qui font semblant de pas me calculer. Franchement, dommage que Notre-Dame n'ait plus besoin de financement pour être réparée, parce que là, enfin, 5 ans après, j'aurais vraiment été chaud pour compléter les quelques centaines de millions d'euros faits par les gros milliardaires. Après tout, maintenant que je paye les impôts, je suis un petit peu comme eux, hein. Enfin, j'ai pas encore décidé de quel paradis fiscal j'allais choisir pour éviter de payer, mais ça ne saurait tarder. Plus qu'à faire ça, racheter un gros groupe de presse, et ça y est. Bah d'ailleurs, je viens d'y penser, c'est décidé, je rachète Radio Campus Paris pour y diffuser mon idéologie. Donc à partir de la semaine prochaine, retrouvez sur cette antenne des émissions sur le métro, des émissions sur les comédies musicales et des émissions sur le spectacle Ticket to Hell dans lequel je joue les 10 et 11 juin prochains et pour lequel la billetterie est déjà en ligne. Et globalement, c'est tout. Gauthier influence Radio Campus Paris, Radio Campus influence Paris. Mais bon, Paris influence le monde, donc l'un dans l'autre, Gauthier influence le monde. Donc voilà, bienvenue dans la première étape de mon monopole. Salut.
Merci Gauthier pour cette belle chronique. Tu as signé la fin de cette émission de la matinale 19h. Ah, merci à toi et on espère te revoir très vite pour la 41e chronique. Et puis on le rappelle, tu as un spectacle. Si tu veux refaire la promo, je te lance une perche.
Les 10 et 11 juin à la MPA Saint-Germain, Ticket to Hell, venez voir une revisite du mythe d'Orphée et Eurydice en musique.
Voilà, donc allez-y, et pour nous c'est déjà la fin de cette édition, donc merci à Gauthier pour ses belles blagues, merci à toute l'équipe, à nos invités évidemment, qui se sont tous déplacés aujourd'hui, merci à Nils qui était à la réalisation ce soir, et aux bénévoles que je cite, Arnold, Gauthier donc, mais aussi Clément qui était là tout à l'heure, et merci à vous auditeurs et auditrices, prochain rendez-vous lundi à 19h, et tout de suite c'est l'Happy Hour scientifique au programme ce soir, la question de l'invisibilité. Des questions des femmes dans la science, pardon.